c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Aline dans les salles mercredi. Le nouveau film de Valérie Le Mercier qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes accompagné de sa co-scénariste Brigitte Buc. Un rendez-vous à ne pas manquer. En fin d'émission, nous parlerons également de la sortie du film Good Men, le nouveau film de Marie Castille, Mention Char, qui sera avec nous accompagné de Jonas Benhamed pour en parler. Christelle Oscar également, déléguée générale du Festival du film de Sarlat qui ouvre ses portes demain, terminera l'émission avec nous pour nous parler de l'édition qui va donc démarrer demain du côté de Sarlat où nous serons pour vous. Et puis dans cette émission, Léo coup de cœur télé consacré à Sophie Cross qui sera diffusée demain soir sur France 3. Alexia Barlier, son interprète, sera notre invité exceptionnel. On va parler Demain nous appartient avec Alexandre Brasseur également pour nous parler de son rôle d'Alex bien évidemment. Et puis Simon Herlaché également à l'affiche de Plus belle la vie, c'est le rôle et bien de Romain Vidal, évidemment, qui rencontre Adriana Carambeu en ce moment, sera également avec nous, vous l'avez compris. On va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Et tout de suite, c'est notre premier coup de cœur ciné de cette semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
C'est un coup de cœur cinéma aujourd'hui consacré au film Aline qui sort mercredi dans les salles. Et quand je dis un coup de cœur cinéma, c'est vraiment un très beau film à ne pas rater qui s'inspire de la vraie vie de Céline Dion, mais qui là est rebaptisée Aline Dieu. Et Valérie Le Mercier est aux commandes à la réalisation de ce film. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Et en co-scénariste, oui. Valérie, vous vous êtes fait aider par Brigitte Buc qui est justement avec nous aussi. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Nous avions déjà écrit Palais Royal ensemble.
Ensemble, oui.
Et on se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc c'est une vieille histoire.
Voilà. C'est une belle histoire d'amitié en tout cas.
Exactement.
Valérie, fan de Céline Dion ou
oui.
pas?
Ouais. Bah oui.
Ça se sent.
Fan et je dirais de plus en plus fan. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup, mais en passant du temps avec elle, avec les livres sur elle, les films sur elle, les vidéos, les télés, les passages, les chansons, je suis devenue encore plus fan que je ne l'étais parce que j'ai découvert. Et puis, grande fan de René aussi. Voilà. C'était une grande découverte. Lui, sa personnalité, voilà, j'ai vu des gens aussi qui le connaissaient et c'était un homme, voilà, comme plein d'artistes aimeraient avoir à leur côté, je crois, dans une vie d'artiste.
Comment vous vous êtes préparé à ce rôle, à la réalisation de ce film? Vous êtes refait tous les concerts
J'en ai vu un, j'ai eu la chance d'en voir un en vrai.
À Las Vegas?
Non, à Bercy, son dernier, il y a 4 ans,
ouais.
De l'avoir sur scène. Et puis sinon, en se penchant sur... Voilà. Et puis il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur elle, sur lui, sur sa mère, très intéressants. C'est peut-être les choses les plus intéressantes où on découvre, voilà. J'ai appris plein de choses. Par exemple, je ne savais pas que son père ne voulait pas d'enfants. Parce que être 14 au Québec dans les années 60, c'est très courant. Mais sans vouloir d'enfants, là, ça commence à être drôle. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez étonnantes et que moi je connaissais pas en tout cas.
Pour écrire le scénario, Brigitte, pour co-écrire ce scénario justement avec Valérie,
oui.
Vous, comment vous vous êtes préparée à cette écriture? Elle vous a tout raconté ou vous êtes fait vous
pas,
aussi quelques livres et quelques
beaucoup.
Concerts?
Ah bah oui, bien sûr. Moi je connaissais pas bien. C'est grâce à Valérie que je connais mieux et que j'adore Céline Dion. Valérie, elle m'a donné plein de livres. On a regardé
plein de documentaires. C'est facile, il y en a, il y a des heures entières de reportages sur elle, sur sa vie, sur sa famille. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va dire, cette fille, elle a tout dit. Et il y a une petite phrase qui m'a marquée une fois, c'est qu'elle dit « Oui, moi je montre tout parce que de toute façon, ce que je montre pas, on me le vole. » Et cette chose un peu mélancolique, inhabituelle chez ce personnage qui est exubérant, qui est gai, qui est joyeux, généreux, m'a fait un petit déclic. Et puis je voyais beaucoup Valérie, enfin je la voyais tout de suite l'incarner. Valérie m'a parlé beaucoup, me l'a fait aimer. Et j'ai lu tous les livres offerts par Valérie. Je les ai emportés en train, prêtés,
soulignés. Elle les a repris depuis ?
Oui, je lui ai rendu, ouais, bien sûr. Et petit à petit, je l'ai aimé. J'ai aimé sa générosité, sa démesure. J'ai compris, j'ai aimé l'histoire de sa famille. Parce qu'en France, on avait peut-être, au Québec aussi, je ne sais pas, mais on avait une image un peu dévalorisée, un peu snob. On s'est beaucoup moqué. Il y a eu beaucoup de sketchs, de choses à la télévision. Pas très
début.
Intéressantes.
Au début, oui.
Mais pendant longtemps, hein. Après, et je trouvais pas ça très intéressant. Donc, je suis très reconnaissante à Valérie de m'avoir fait découvrir ce qu'il y avait derrière tout ce côté un peu snobinard, de ne pas aimer une fille qui réussit trop, qui est trop drôle, trop généreuse. Voilà. Donc, j'ai appris par Valérie à l'aimer.
Valérie, il faut dire quand même que Céline Dion, c'est un parcours absolument incroyable.
Un destin atypique,
et unique au monde.
Et unique et surtout d'actualité, c'est-à-dire elle est vivante, elle est plus jeune que moi, elle n'a jamais été aussi célèbre, elle est voilà, c'est fou. Et c'est fou de voir une famille où ils avaient véritablement pas forcément du temps de Céline mais de ses premiers frères et sœurs. Pas de quoi manger et d'être ensuite perdu dans sa grande maison. C'est quand même de pas s'y retrouver. C'est quand même rare d'avoir un tel écart dans sa vie d'enfant et sa vie d'adulte. Voilà, c'est fou et c'est une très très grande réussite avec en même temps aucune honte à ça. C'est-à-dire qu'on la voit dans des reportages, on la voit à 14 ans, elle dit « je veux être une star internationale » et elle n'a pas honte de le dire. J'en connais aucune en France. Si quelqu'un a le malheur de dire ça, on va lui rabattre son caquet tout de suite. Elle, non. Et moi, j'ai aimé jouer une fille qui n'a pas honte de vouloir être connue, qui n'a pas honte d'aimer les chaussures à talons, qui n'a pas honte d'aimer ce qui brille. C'est sympathique. Nous, on a une espèce de truc, je sais pas d'où ça vient, mais de vouloir toujours être profil bas et tout ça. On lui a reproché, par exemple, son grand mariage. Mais c'était le rêve de sa vie. Qu'est-ce que ça peut faire aux gens que son gâteau soit trop gros? C'est pas grave. De toute façon, elle donne beaucoup, donc c'est offert et on est content. Et on est content quand on va la voir sur scène de voir des robes incroyables et d'avoir du spectacle. Voilà. Elle rend tout. On s'ennuie jamais quand on la regarde. Et moi, d'ailleurs, je ne me suis jamais lassée. J'ai entendu beaucoup de réalisateurs qui faisaient des films sur des personnes dire « je n'en peux plus, j'en ai mangé pendant... » Ah, moi, je continue à l'écouter, je continue à regarder des choses. On me fait encore découvrir des images que je connaissais pas. On ne s'ennuie jamais avec elle. C'est ça qui est là, au-delà de son talent de chanteuse. C'est que c'est toujours de tout, elle fait un show. C'est très généreux pour son public, je trouve.
On va écouter la bande-annonce. Aline, oui. Ça sort mercredi au cinéma. On écoute.
Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette elle continue de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble.
Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience, c'est la révélation au Québec depuis un an.
Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons.
Où est-elle?
Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je me bats dans les rênes pour que tu me tiennes. Oh. Je me ferai
nos pour que le feu reprenne. Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, un prince qu'il lui faut, pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Alors Valérie, première question aussi que j'ai envie de poser après cette bande-annonce. Là, c'est sonore, évidemment. Quand les gens vont aller le voir au cinéma, ils vont se rendre compte qu'il y a un véritable travail au niveau mise en scène dans ce film, au niveau des costumes, au niveau des coiffures. Je sais pas combien de coiffures vous avez changé sur ce tournage.
Bah, il y a, y a, y a, y a ça, les robes. Je crois que On a fait 182 costumes juste pour moi. On a coupé quelques scènes, il en reste peut-être 160, mais enfin il en reste beaucoup. Les cheveux, je suis passée du blond au brun, au court, au long. Enfin bon, voilà, c'est super amusant. Et encore, il y a plein de coiffures de Céline que j'ai pas faites. Les cheveux peroxydés, blonds et très courts, j'ai pas fait. Par exemple, elle a dû avoir une vingtaine de maisons. On n'en voit que trois dans le film. On a fait des choix.
Vous avez vraiment tourné à Las Vegas, du coup ?
Oui. On a tourné à Las Vegas, une scène de la fin du film, dans les rues de Vegas, à 5h du matin. Et j'ai joué...
Au lever du soleil.
Au lever du soleil. On a commencé la nuit. J'avais froid, donc je suis allée... Derrière moi, il y avait un casino. J'ai mis $20 dans un... Et j'ai gagné 100. Donc j'étais tellement contente que sur mon petit banc, où j'étais censée être triste, j'étais tellement contente d'avoir gagné que j'avais du mal à jouer la fille qui flippe.
Qui était malheureuse.
Oui, c'est vrai. Mais bon, en même temps, je me disais, ça va me porter chance, ce truc. Je joue jamais au casino, mais là, c'était surtout pour se réchauffer. Mais c'était marrant, en tout cas, d'être... Et puis... Ce qui était marrant, c'est que Céline, je pense qu'elle ne peut pas aller dans les rues de Las Vegas. Elle ne pouvait pas, elle est trop connue. Nous, évidemment, moi encore plus, tout le monde s'en fout. Donc, on a pu le tourner et c'était marrant. Moi, j'aime le matin, quand je suis dans une ville, au petit matin, à l'aube, aller voir où je suis. C'est mon grand plaisir et on a essayé de lui faire faire ce que moi, j'aurais rêvé de faire et qu'elle n'a pas pu faire. Elle peut pas, malheureusement, ça isole la célébrité quand même, surtout à ce point-là. Ça nous arrivera jamais, voilà, c'est sûr. Mais là, donc on lui fait faire un tour dehors, ce qu'on aurait souhaité qu'elle fasse, voilà.
Quelle a été la scène la plus forte pour vous à tourner?
Moi, j'ai aimé les scènes en famille. J'aime beaucoup le mariage, quand elle se marie, que tous ses frères et sœurs lui chantent une chanson. J'ai trouvé ça très émouvant, vraiment. Voilà. Puis j'ai aimé beaucoup faire les scènes sur scène.
Moi, ce qui m'a bluffé, c'est comment, Valérie, vous êtes passée du personnage de 12 ans à l'âge de Céline aujourd'hui. Et il y a dû y avoir des petits submerfuges numériques, ou je sais pas, mais...
Bah non, évidemment,
c'est tellement bien fait.
Je le fais avec tout mon corps. C'est-à-dire que c'est pas ma tête posée sur un corps d'enfant, c'est entièrement moi. Donc il y a eu des effets spéciaux, très spéciaux, et ils ont inventé une technique pour ce film. Bon, donc je suis rapetissée entièrement, on change mes proportions, mais il y a eu des techniques hyper pointues.
Ah bah là, oui.
Et des choses très très simples, comme avoir à l'école un très grand bureau, donc j'ai l'air petite, de dédicacer des très grands disques avec un très gros feutre.
Je me suis demandé s'ils n'avaient pas mis des gros talons à tous les autres, justement, pour qu'ils paraissent plus grands.
Non, ils sont sur des caisses parfois, ils sont sur des... Voilà, et par exemple, le lit d'Aline enfant, on l'a reproduit, on a fait le même en très grand. Ça, c'est des choses très simples, et puis en même temps, il y a quelques... Évidemment, il fallait effacer les marques du temps, et c'est... Mais moi, je n'ai jamais fait un seul spectacle sans jouer d'enfant. J'aime jouer des enfants, pour l'instant, je le fais encore, peut-être que je devrais arrêter un jour, mais ça m'a toujours amusé de jouer des enfants, et je pense que c'est plus facile de jouer des enfants quand on n'est pas, et que quasiment je pourrais même dire que j'ai jamais été vraiment une enfant, donc c'est plus facile à faire. Un enfant, il pourra pas jouer un personnage, on va pas dire à une petite fille de 12 ans, fais-nous Céline Dion. Au mieux, une enfant, elle est elle-même, et c'est déjà beaucoup. Et puis en plus, les enfants, ils peuvent tourner 3 heures par jour. Nous, on peut tourner toute la journée. Au-delà de ça,
c'est... Ça a son avantage.
Voilà.
Bon, continuez en tout cas à nous faire rêver comme ça. Dernière question avant de se quitter, Valérie et Brigitte. Comment on se sent là, quelques jours de la sortie du film, où il va appartenir au public, pour le coup? Vous vous sentez comment, toutes les deux?
Moi, je suis très fière et heureuse, mais Valérie le porte tellement que c'est à elle de parler et d'exprimer ce qu'elle ressent. Moi, je suis heureuse, fière, j'attends... Voilà, je l'aime beaucoup ce film, je le dis. Je fais comme Céline, je fais pas semblant, j'aime beaucoup ce film et je trouve que l'interprétation de Valérie est extraordinaire.
Ah oui, remarquable.
Ben merci Brigitte, et moi je suis j'ai un peu le trac, de toute façon j'ai toujours le trac, donc ça m'a pas changé, mais j'ai hâte que les gens le découvrent, comme j'ai eu hâte de commencer à le faire. Voilà, généralement sur les tournages, on espère gratter 2 semaines, 3 semaines pour que ça commence plus tard. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai hâte que le tournage commence. Et quelque part, j'ai hâte aussi que les gens le découvrent.
Eh bien, nous aussi. En tout cas, on a hâte que les gens le découvrent et nous disent un peu ce qu'ils en pensent. Mais allez le voir au cinéma. Et c'est vraiment un film à voir sur grand écran. Vous allez en prendre plein les yeux. Je vous le conseille vraiment. C'est Aline, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Merci Valérie, merci Brigitte d'être venue nous voir.
Cette folie-là, on va pas la faire, Aline.
Garde-moi. Bien droit dans les yeux. Et dis-moi que tu m'aimes pas.
Et on se retrouve dans un instant, juste après une petite pause. Alors surtout, ne bougez pas. On revient tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, Plus belle la vie à l'honneur encore aujourd'hui, puisqu'on va mettre un des personnages, des nouveaux personnages à l'honneur, celui de Romain Vidal avec Simon Herlaché qui nous a rejoint. Bonjour mon cher Simon.
Coucou Alain, comment tu vas?
Ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir, ce personnage de Romain Vidal auquel on s'est attaché tellement vite, avec ses failles pour commencer, sa maladie, et puis on a presque oublié qu'il était malade, ce garçon-là, et on le suit dans ses aventures, et franchement ce nouveau médecin Mistral, nous on en est ravis.
Ah mais je suis content. Je suis content de voir le retour qu'elle a porté de ce personnage et ça fait très plaisir d'entendre ça.
Comment t'as vécu justement un peu cette notoriété soudaine? On sait que voilà, arrivé dans une série quotidienne, d'un seul coup tu t'invites tous les soirs au dîner chez les gens et puis dès le lendemain le regard il change évidemment. Quand tu vas acheter ta baguette de pain, on te reconnaît d'un coup. Donc ça change les choses quand même.
Ça change les choses, mais il y a toujours énormément de bienveillance mais je sens les regards, je sens les attentions, mais ça reste très bienveillant et c'est très agréable.
Il y a toujours du respect.
Exactement, oui.
Et il y a eu cette saga d'été. Alors franchement, t'arrives, nouveau personnage direct, allez hop, saga d'été. C'est génial.
Je suis un privilégié, moi. Je suis un privilégié, j'arrive, saga d'été, un truc en plus physique avec David Bam, en extérieur, dans des décors de fou. C'était... Et puis là, une intrigue avec Adriana. Je suis vraiment privilégié sur cette année-là.
Franchement, 2021 pour toi, entre la saga d'été et maintenant Adriana Carambeu, franchement... Là, c'est franchement top.
Aux petits oignons. Non, c'est un régal, vraiment.
Comment t'es arrivé dans la série au début? Casting, tout simplement.
Casting, ouais. Casting, il m'avait casté déjà au mois d'août pour un guest qui devait faire un mois, qui devait jouer d'ailleurs avec Léa François. C'était un aventurier un peu baroudeur, et j'ai cru comprendre un peu mytho. Et au final, ils m'ont rappelé pour Vidal, et je pense que c'était compliqué pour trouver le... Ils n'arrivaient pas à trouver le perso. Je suis arrivé, je pense, en bout de casting. Et puis après, tout s'est fait très vite. Tout le monde était OK, la chaîne, la prod, l'artistique. Donc ça s'est fait très vite. J'ai enchaîné le tournage, je crois, 2-3 semaines après.
T'as tourné beaucoup avec Flavie Béant, du coup, les premières semaines.
Exactement. J'ai tourné avec Flavie. Et puis un peu, j'avais une intrigue. Et puis le deal, c'est que si ça se passait bien, s'il y avait un bon retour de...
Du public, ouais.
On ferait d'autres arches. Et puis il y a eu l'installation du cabinet, il y a eu la saga. Et aujourd'hui, Adriana Carambeu.
Alors, il a quelques démons quand même. Romain, évidemment, sa maladie qu'il essaie de cacher à tout le monde, mais qu'on voit bien qu'il de temps en temps revient par petite pulsion qui le ronge un peu de l'intérieur.
Pendant la saga, toute la période de la saga, où quand il a appris pour sa maladie, pour son père, ses envies suicidaires. Et je pense que la saga, ça lui a donné un petit peu de liberté. Il a plus envie de bouffer la vie. Après, ce qui le remet dans ses démons, c'est le fait toujours de se mettre avec quelqu'un, parce que il peut pas avoir de visibilité sur la durée. Donc dès qu'il a un feeling avec quelqu'un, tout de suite ça le rattache à cette maladie.
Avec Fanny, par exemple, où ça a été compliqué.
Avec Fanny, comme avec Victoire, comme avec sa femme où il a divorcé, comme aujourd'hui avec Adriana.
Voilà. Ce personnage, c'est un peu l'amour en fuite.
Exactement. Donc des fois, j'ai envie de me dire, il a cette pulsion où il a envie des fois de se dire, ah non, j'y vais, je me pose pas de questions, j'y vais. Et puis toujours, ces démons le rattrapent. Pour l'instant, on est dans ce schéma-là. Tant que j'ai pas de symptômes, en plus, j'ai juste des tremblements de... Mais peut-être que demain, je vais commencer à bégayer ou je sais pas.
Non, gardez-nous le personnage longtemps. Nous, on a envie que Romain Vidal reste avec nous et continue à soigner les gens au Mistral. En tout cas, maintenant qu'on a un médecin. Un médecin, c'est rare, hein, donc faut les garder.
On va essayer.
Bon, Simon, quel est ton meilleur souvenir justement sur le tournage de cette saga? À nous raconter une anecdote, parce que vous avez été tellement chanceux de tourner en décor naturel comme ça, dans la végétation, dans la nature. C'était incroyable tout au long de l'été, ces décors dans lesquels vous avez été, cette cascade.
Déjà, c'était par exemple la cascade, c'était un très beau souvenir. C'était vraiment puissant, je trouve, au niveau énergétique. C'était puissant, c'était vraiment le mot. Je me souviens d'ailleurs, en fin de tournage, on s'est fait des baignades où on était sous la cascade et c'était vraiment des jolis moments. Après, purement humainement, c'était avec David, que tu connais. Donc moi, j'ai vu des fous rires, comme en plus, je suis son meilleur public.
Avec David, ça m'étonne que tu aies eu des fous rires, franchement.
Je me suis régalé, mais même des fois j'étais gêné parce que j'arrivais pas à me concentrer tellement il me faisait rire. Et je sentais que toute l'équipe disait, bon, il nous reste un quart d'heure avant la fin de journée, là, faut te concentrer. Et je le voyais, c'était, on a réussi à sortir des séquences, mais on était à la limite à chaque fois, hein. Parce que lui, il a cette force où il peut déconner et vite. Mais alors moi, dès que je déconne, après c'est, on me perd, c'est fini.
Bon, là, le futur du personnage, donc. On arrive dans une intrigue avec Adriana Carambeu.
Bah écoute, on m'annonce pendant, on est en train de tourner la saga, on m'annonce que j'ai, au début ils étaient un peu, tu vas avoir une super guest et tout. Et j'apprends mi-août que je tourne avec Adriana Carambeu.
Et là tu te dis quoi à ce moment-là?
Bah je me dis mais
qu'est-ce que tu vas être obligé de mettre des talons.
Mais alors non, j'ai plus eu au niveau de la hauteur, j'ai plus eu conscience quand je me suis retrouvé face à elle. J'ai fait ah ouais quand même. Donc tu vas être toujours à plat parce que sinon tu vas mettre des centimètres. Mais non, mais j'étais extrêmement flatté. Elle a été considérée comme une des plus belles femmes du monde. Moi j'ai la chance de tourner une intrigue avec elle. J'étais extrêmement flatté, extrêmement flatté.
Bon, on va suivre ça bien évidemment du lundi au vendredi à 20h20. Merci d'avoir été avec nous Simon. Et puis à bientôt.
Il y a un peu plus de 1000 élèves à ce coteau. Alors il faut faire comme avec une corbeille de fruits. Quand il y en a un de pourri, on s'en débarrasse avant qu'il contamine les autres.
Bêtis Solano pour conseil de discipline en vue d'une exclusion. Mais c'est quoi ce truc là?
Elle kiffe de casser les gens pour sentir exister, elle classera pas.
Je m'en excuse.
Moi je connais pas grand chose à l'éducation. Mais s'il n'y a pas la confiance, c'est mort.
Notre coup de cœur télé va s'intéresser à la série Sophie Cross qui démarre demain soir sur France 3 avec Alexia Barlier et Thomas Joanet. Alexia qui est justement notre invitée. Bonjour ma chère Alexia, comment ça va?
Bonjour Alain, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de pouvoir parler de ce projet qui a été tellement fort et émouvant pour moi et tous mes partenaires. Donc on est très heureux que ce soit diffusé là demain et de voir les réactions du public et des spectateurs.
Ben moi très heureux de t'avoir à nouveau. On s'était rencontré avec Laura Smet à l'époque du téléfilm Imposture et là eh bien on se retrouve pour cette série portée littéralement par toi, franchement Alexia. On va y raconter l'histoire de cette avocate où son fils de 6 ans disparaît et 3 ans vont se passer évidemment avec un bond dans le temps où on va la retrouver pour pouvoir tenter de retrouver peut-être sa trace parce qu'elle ne se résout pas finalement Sophie à ne pas retrouver un jour son fils, hein.
Exactement. Quelle mère le ferait, sans savoir. En fait, il disparaît au début de la série et on ne sait pas s'il a été kidnappé ou qu'est-ce qui s'est passé. Et l'enquête ne donne pas de réponse. Donc, elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne peut pas faire le deuil d'un enfant qui est peut-être sûrement encore vivant quelque part. Donc, elle va décider elle-même de devenir flic pour continuer l'enquête en secret parce que son mari est commissaire, joué par Thomas Joanet. Souhaite que ça fait 3 ans et que ça c'est très éprouvant au quotidien, cette disparition de leur fils. Mais au bout d'un moment, ils souhaitent qu'ils aillent de l'avant. Il faut que la vie reprenne le dessus. Et mais simplement, c'est pas son choix et c'est pas possible. Et je pense qu'en tant que mère, elle a porté cet enfant. C'est impossible pour elle de continuer à vivre sans savoir ce qui lui est arrivé. C'est son obsession. Et le soir, elle continue son enquête. Et quand elle peut en parallèle, elle le cherche à tout prix, désespérément. Et voilà, c'était forcément un personnage très, très émouvant à porter à l'écran, d'autant plus que ma fille avait 12 mois à l'époque, donc toute petite encore et très proche dans cette expérience de la maternité. Donc ça fait écho en moi très fort, cette femme qui perd son enfant ou dont l'enfant est disparu sans savoir exactement où il est et ce qui lui est arrivé. Donc voilà, beau projet, émouvant.
On touche, Alexia, dans cette série, à ce qu'il peut y avoir de plus douloureux dans la vie, c'est ne pas avoir de réponse. C'est justement de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude, de ne pas savoir ce qui a pu se passer. Et c'est vrai qu'on touche vraiment à ce sujet très fort à jouer pour une comédienne, bien évidemment, et un comédien. Mais dans la vie réelle, c'est voilà, c'est hyper douloureux de ne pas savoir ce qui a pu se passer, mais dans n'importe quelle situation.
C'est le pire.
Ouais, c'est le pire des scénarios.
C'est le pire, comme tu dis, c'est le pire. De toute façon, le pire, tout le monde qui est parent sait, c'est de perdre son enfant, de perdre son enfant, ça c'est la chose la plus terrible que quelqu'un puisse traverser. Et en plus, perdre son enfant, mais sans savoir si l'enfant est encore vivant, si l'enfant est mort, est-ce qu'il est séquestré, est-ce qu'on abuse de lui physiquement, l'esprit part dans toutes les directions et dans les pires directions, et cette absence d'informations, c'est le pire parce que ça hante et ça obsède. Vraiment, vraiment un beau rôle et une belle trajectoire qu'on a portée avec mon partenaire Thomas Joanet. On a des très beaux moments de couple, même si chacun, Sophie Cross et Thomas Leclerc, chacun, ils ont une vision différentes de quoi faire à partir de ce moment-là. Et lui, il veut avancer et elle, elle veut le retrouver à tout prix et il n'y a rien d'autre qui compte. Malgré tout, il y a des moments où ils se retrouvent et au fil de la saison, ils se retrouvent et il y a des moments de couple, de parents, dans le deuil, dans l'espoir, dans la recherche. Il y a vraiment des moments très forts entre nos deux personnages. Donc c'est aussi une histoire sur le couple et comment un couple survit à la disparition d'un enfant. Et malheureusement, il y a tellement de couples qui vivent ça et qui ont vécu ça. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut y survivre? Et donc voilà, c'est un des sujets qui est traité dans la série avec beaucoup de tact par notre scénariste Paul Piedefort qui a écrit toute la saison tout seul. Et les enquêtes sont très riches. Et en même temps, les trois enquêtes policières que Sophie Croce va suivre sont vraiment denses et intéressantes et vraiment approfondies. Et en même temps, tout ce fil rouge de la recherche de notre fils et du couple et de comment on s'éloigne, comment on se rapproche, enfin, c'est vraiment écrit avec tellement de délicatesse et d'intelligence. Et notre réalisateur Frank Van Mechelen, qui est flamand aussi, comme Paul Piedefort, nous a dirigé aussi avec beaucoup d'élégance. C'est vraiment une belle série, donc je suis très heureuse qu'elle soit diffusée à partir de demain sur France 3, parce que c'est vraiment un beau projet.
Deux questions simples, Alexia. La première, parce que moi j'ai vu que le premier épisode, est-ce qu'à la fin du troisième, on va avoir des réponses aux questions posées, ou est-ce que aussi c'est ouvert vers une suite? Est-ce qu'on peut espérer que Sophie Croce revienne après ces trois épisodes pour une suite? Est-ce que c'est déjà prévu?
Oui, il y a des éléments de réponse, mais il n'y a pas toutes les réponses.
Ah, donc c'est ouvert pour une suite?
C'est ouvert pour une suite, donc on espère que les téléspectateurs seront au rendez-vous et qu'on aura le plaisir de tous se retrouver pour continuer à raconter l'histoire de Sophie Croce, Thomas Leclerc et Arthur Leclerc, ma fille. Mais il y a des pistes, il y a des éléments dans l'enquête qui avancent. Il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment une série, une première saison riche et dense, mais on donne pas toutes les réponses. Voilà, c'est pas écrit comme une mini-série, c'est pas conclu à la fin de la saison. Donc on espère vraiment que vous serez nombreux à suivre ces trois épisodes et qu'on puisse se retrouver pour une saison 2 pour continuer à vous raconter cette histoire.
Eh ben écoute, nous c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors les fans d'Ainsi Grand Soleil aussi seront ravis puisqu'on retrouvera au casting Fred Bianconi, mais aussi Naïma Rodrigue et Frédéric Van Der Driche. Donc il y aura du beau monde autour de toi, avec Aurélien Recoin aussi, Mariama Gouey, enfin vraiment du beau monde. Et Cyril Lecomte.
Ouais, Cyril Lecomte, Oussama Kedam, enfin beaucoup d'acteurs qu'on voit énormément.
Très beau casting.
En ce moment, ils ont tellement de talent. Je suis vraiment bien entourée. C'est pour ça que j'espère être saison 2.
Mais bah écoute, nous on va croiser les doigts pour toi et puis voilà, on fait tout ce qu'on peut, on est là pour te soutenir et puis
merci
demain soir.
Merci beaucoup.
Et ben demain soir on ne rate pas, c'est Sophie Croce et c'est à 21h05 sur France 3. Merci Alexia et à bientôt.
Merci Alain. Au revoir.
Allez papa. T'avais promis.
Non, attends, j'ai promis qu'on ferait du cerf-volant ce week-end. Mais reste demain, hein.
C'est non trop longtemps.
Ah, mais papa, il a beaucoup de travail. Il doit arrêter les méchants, tu sais.
Comme ça, maman, elle peut les relâcher. Hein, tu sais quoi, champion? Tu vas t'entraîner et puis on va en faire tout à l'heure, d'accord?
Promis,
juré, craché. Et puis on apprendra à maman à faire du cerf-volant, d'accord?
Ok.
T'es libre ce soir? Compte sur toi.
Ouais, allez, bosse bien.
Salut les amours.
Allez, demain nous appartient. Eh bien, nous allons accueillir aujourd'hui Alexandre Brasseur dans notre émission. Bonjour Alexandre.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver.
Moi aussi, je suis ravi de te retrouver Alexandre, avec ce rôle d'Alex qui a vécu, on va dire, bien des émotions ces derniers temps, avec déjà cette prise d'otage qui a beaucoup marqué le personnage, ce petit coup de reviens-y avec Chloé, enfin bref, il s'en est passé des choses dernièrement.
Exactement. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que je pense que moi ça me manquait, je pense que ça me manquait aussi au personnage de revenir, et je trouve que ce qui s'est passé dernièrement avec la prise d'otage au Spoon, moi à titre personnel ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai trouvé qu'on était revenu aux fondamentaux de cette série que j'adore, avec de la romance mais aussi des grands enjeux, et aussi quelque chose qui me plaît bien, c'est un vrai lien entre plusieurs personnages de la série, et moi ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu.
Puis avec ce personnage du Spoon qui est quand même un axe central de la série depuis le tout premier épisode où il s'est passé ce drame, évidemment.
Exactement. Et c'est ce que je voulais te dire également, c'est que je trouve que le cœur de la ville de Sète a été remis à l'honneur, chose qui n'avait pas été faite depuis fort longtemps. Il est vrai que nous avons la chance de tourner dans beaucoup de décors naturels autour de Sète, mais pour des raisons évidentes de complexité et d'organisation, on tourne un peu moins dans le cœur de la ville. Et le cœur de la ville, pour le coup, ben voilà, c'est le cadre royal, c'est vraiment les quais du Spoon. Et le fait de pouvoir revenir tourner là, c'est un joli clin d'œil au début de cette série, puisque comme tu le dis si justement, la série démarre, les deux premiers épisodes se passent au Spoon. Et c'est pas pour rien que ce lieu est devenu un lieu assez emblématique de la série.
Qui abrite d'ailleurs la boutique officielle aujourd'hui de la série. Beaucoup de bouleversements ces dernières semaines. On a vu vraiment la patte de Marc Cressman, le nouveau producteur artistique de la série, de nouveaux personnages. Comment vous avez vécu, vous, un peu, les anciens, avec ces affiches où il est marqué « Ils les attendent » et puis vraiment les nouveaux personnages où il y a marqué « Ils arrivent ». C'est vraiment une rencontre choc des anciens et des nouveaux, avec un renouveau total, évidemment, pour cette nouvelle saison.
Alors, je sais pas si ce sera une rencontre choc, en tous les cas pour l'instant pas forcément en ce qui me concerne. Je pense que Ingrid est beaucoup plus concernée par tout cela, notamment avec Emmanuel Moir, puisque il est professeur de français. Mais d'une manière très personnelle, moi je suis très emballé par toutes ces nouvelles arrivées. Je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur, et puis que à titre, on va dire, je parle pas des personnages, mais je parle du côté humain, et c'est quand même fondamental dans notre métier. Ce sont des actrices et des acteurs tout à fait agréables, avec qui on passe des bons moments à discuter et à partager du temps. Donc ça, pour moi, c'est déjà beaucoup.
Moi, je trouve aussi l'alchimie qu'il y a entre toi et Alice Varela, qui joue ta fille. C'est magnifique, ce rapport père-fille que vous avez, surtout que là, elle veut prendre la suite, justement, de la cabane des huîtres de Jeanne. Et je trouve ça très beau, cette relation qu'il y a entre vous deux à l'écran.
Effectivement, c'est une relation qui, moi, me touche. Je dois dire que, d'une manière générale, travailler avec Alice, c'est très plaisant. C'est une comédienne que j'aime beaucoup, qui a un jeu assez organique. Ça réfléchit pas beaucoup, ça rentre dedans. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à voir certaines scènes qu'elle a jouées avec Catherine Allégret, où elle se rentrait dedans. Je trouve ça assez jubilatoire. Et je trouve que d'aborder enfin la thématique de la transmission avec sérénité, grâce à ces deux personnages, je suis enchanté.
Alors ce petit coup de reviens-y. Ce retour de flamme, moi j'oserais dire presque, avec Chloé.
Bien, je pense que voilà, ils ont vécu une situation extrêmement forte au niveau émotionnel. Et puis je crois qu'il faut pas oublier que ce sont deux parents. Après, ce qu'ils vont en faire, très honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait une forme de respect mutuel pour tout le monde. D'abord vis-à-vis d'eux-mêmes et puis vis-à-vis de leurs conjoints respectifs. Mais je ne sais pas où les scénarios, nous emmèneront. Tout ce que je pense, c'est que voilà, ce sont de toute façon deux personnages qui ont été mis à distance pendant quasiment plus d'un an. Et qu'il était quand même grand temps qu'ils reviennent ensemble, non pas forcément par la forme d'un baiser ou d'un rapprochement physique, hein, mais avant tout sous la forme des parents qu'ils sont et qu'ils sont pour toujours.
Un apaisement après cette guerre ouverte qu'il y a eu.
Et d'un apaisement. Et il est vrai que voilà, on en a tous bien besoin. Mais voilà, ça reste et ça restera les parents de trois enfants. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on parle de ça, quoi. Donc après, je sais pas s'ils doivent se rapprocher ou pas se rapprocher, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ils ont des problèmes à traiter sur leurs enfants. Et ce qui a fait la force de ce couple, après ils peuvent être en couple ou pas, je n'en sais rien, mais c'est aussi de pouvoir faire front commun et d'affronter ensemble des problèmes. Donc ça, ils peuvent être en couple ou pas, ça n'empêche qu'ils peuvent être ensemble quand même. Tu vois ce que je veux dire?
Alexandre, il y a des projets pour la suite aussi, à part Demain nous appartient. Est-ce que ça t'a laissé le temps aussi de tourner d'autres choses, ou on va te voir dans d'autres choses?
Alors écoute, j'ai fait avec Bruno Garcia et Sam Carman, Léa Lévian et Annie Grégorio, que j'adore, que j'embrasse au passage, un unitaire pour France 2 à Bordeaux l'an dernier. Et puis j'ai pu faire le dernier film de mon ami Julien Zidi avec Pascal Demolon, que nous avons tourné à Strasbourg cet hiver. J'ai une affection toute particulière pour ce projet parce que voilà, Julien Zidi était mon ami, il est décédé au printemps.
En Espagne, oui.
Oui. Et puis là, tout dernièrement, j'ai eu la chance folle d'atterrir sur un projet que je suis moi-même allé pêcher au Festival de Monaco, puisque Laurence Bachmann et Marie Dupuy-Dangeac m'ont proposé de jouer Sénard, qui est l'avocat de Flaubert, dans une adaptation de Emma Bovary, qui traite du roman par le prisme du procès fait au livre. Donc ça vous permet d'avoir une distanciation par rapport à ce qui est écrit. Et donc c'est un aller-retour permanent entre ce qui se passe au procès et les attaques qui sont faites à l'égard du livre et des personnages. Et aussi, donc, vous faites des allers-retours entre le procès et aussi et tout de suite après vous rentrez dans le roman. Donc vous voyez ce dont ils se rendent dedans, ils se prennent le bec au procès et paf, vous rentrez dans le roman. Et ça fait une succession d'allers-retours. Ça m'a permis de jouer face à Laurent Stocker du Français, qui pour moi était une de mes plus grandes rencontres de ces dernières années en termes de jeu et d'amitié. Donc j'en profite pour saluer Laurent Stocker sur vos ondes. Voilà un film d'aujourd'hui qui parle d'un roman du 19e et qui met le point sur un problème fort actuel, qui est la condition féminine, puisque déjà au 19e siècle il y avait une condition féminine qui était abjecte pour les femmes, et que parfois les femmes se battent contre ça, preuve en est les hashtags qu'on connaît. Et bien voilà un film qui va parler vraiment de ça, mais sous couvert du 19e siècle, mais avec une portée bien actuelle.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler, comme quoi les festivals ça crée des liens, ça crée aussi surtout des projets qui démarrent. Merci à toi en tout cas Alexandre d'avoir été avec nous une nouvelle fois, et puis on suit évidemment, hein, Demain nous appartient, tu sais qu'on n'en rate pas une bouchée, c'est du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1, merci.
À bientôt.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. La télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Good Men de Marie-Castine Mention-Char, qui est notre invitée aujourd'hui. Après Le ciel attendra et La fête des mères, on se retrouve pour la troisième fois dans notre émission. Marie-Castine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Jonas Benabend également qui est avec nous. Bonjour Jonas.
Bonjour.
Good Men, on va planter un petit peu le décor ensemble, Marie-Castine. Déjà, comment est né le projet de cette histoire ?
Le projet est né suite à une discussion qu'il y avait dans un documentaire réalisé par mon co-scénariste, et discussion qui a éveillé ma curiosité, déconstruit aussi beaucoup de choses par rapport à la parentalité, par rapport au rôle que la société a construit autour de ce qu'est un père, ce qu'est une mère, où j'ai découvert que des milliers d'hommes trans accouchaient et portaient leur enfant chaque année aux États-Unis, et où j'ai découvert des grandes histoires d'amour, et j'ai eu envie de me plonger dans ce sujet. Et puis d'écrire un film par rapport à ce désir de parentalité.
C'est aussi une grande histoire d'amour entre Aude et Benjamin qui est racontée à travers ce film, magnifiquement interprété bien évidemment, parce que c'est aussi quatrième fois je crois que vous retrouvez Noémie Merland dans un film, hein, Marie-Castine ?
Oui, quatrième film qu'on a fait ensemble.
Comment ils ont accepté justement l'histoire ? Ça a été facile de les convaincre justement d'endosser ces rôles à toutes les deux ?
Oui, que ce soit Noémie, que ce soit Soko, qui joue le rôle d'Aude. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble. Mais elle a eu très envie de participer à cette aventure. Et puis Noémie, comme d'habitude, s'est plongée dans ce rôle pour l'incarner au mieux, au plus juste et le plus sincèrement possible.
Alors, ce qui est assez bluffant, parce que je crois qu'il faut quand même le souligner, c'est sa voix à Noémie, qu'elle a travaillé bien évidemment avec une tessiture différente, hein, mais c'est vraiment sa voix. Il y a pas du tout de fake dans ce film. On est vraiment dans le pur là finalement.
Oui, c'était la condition sine qua non pour faire le film, puisque elle interprète un homme et que ce n'était pas du tout un côté performance, etc. Il fallait juste qu'elle interprète Benjamin, donc ça passait par pas mal de travail et pas mal de préparation. J'ai envie de dire que c'était ce qu'il fallait faire, et la moindre des choses pour incarner ce rôle au mieux.
Alors pour ce premier film avec Marie-Castine, Jonas, petite apparition, t'es le caissier du supermarché en fait.
Tout à fait. Je sais pas quoi dire de plus. J'interprète juste un jeune homme qui, à l'instar de Benjamin, s'installe sur l'île de Groix.
Alors l'île de Groix, ça c'est un personnage aussi un peu à part entière du film dont on va parler dans un instant. Comment t'as réagi, Jonas, quand t'as vu le film totalement terminé ?
Ben, j'ai oublié que je tournais dedans en fait. La première fois que j'ai découvert sur grand écran, c'est quand je me suis vu justement à la scène de la caisse que je me suis dit « Ah oui, c'est en fait pour ça que je suis en train de regarder ce film ». J'étais tellement absorbé par l'histoire que j'ai complètement omis le fait que j'y étais.
C'est la première fois que le sujet est évoqué au cinéma.
Marie-Cassie, est-ce que c'est facile justement après vous avec la casquette de productrice d'arriver à ce que tout le monde vous suive sur un sujet comme ça?
De toute manière, aujourd'hui, rien n'est facile, rien n'est évident, et donc je crois que les partenaires financiers qui m'ont suivi sur ce film sont ceux qui m'ont déjà suivi sur d'autres de mes films et qu'ils m'ont fait confiance par rapport à la manière dont je voulais traiter ce sujet, l'importance aussi du sujet par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans notre société, dans ces débats de société, et donc ils ont eu envie de me suivre une fois de plus en pensant que je traiterais ce sujet avec bienveillance et aussi avec beaucoup de sincérité.
La magnifique Île de Roi a été choisie un peu comme décor principal pour cette histoire. Pourquoi l'île de Groix?
Alors l'île de Groix, donc il y a deux décors dans le film. Il y a l'île de Groix et puis il y a Aix-en-Provence. L'île de Groix parce que elle représente très symboliquement une bulle, un cocon où des Benjamins viennent s'installer pour refaire leur vie, pour commencer leur vie de couple, une vie où il y a une totale neutralité, où tous ceux qui les rencontrent rencontrent un jeune couple avec des professions qui sont aussi au service de l'île, puisque Benjamin est infirmier, donc il tisse des liens très importants avec la population de Groix. Et puis Aude est professeure de danse, donc elle tisse aussi des relations avec les enfants de Groix, et tous les deux ont cette mission aussi de transmission. Benjamin, parce que ceux qu'il soigne, eh bien, lui transmettent la mémoire de l'île, et puis Aude, elle transmet aux enfants sa passion pour la danse, son rapport aussi au corps, et donc les deux s'installent et s'ancrent vraiment dans le quotidien de l'île.
On va découvrir cette histoire au cinéma mercredi. Les projets, parce que alors, je crois que c'est une première entre vous deux, Jonas, mais je crois que c'est pas la dernière.
En effet, on a tourné du coup cet été avec Marie Castille mon second long métrage. J'interprète un flûtiste d'orchestre symphonique. J'ai dû apprendre la flûte pour ça et ça a été une sacrée expérience et je suis très content de continuer l'aventure avec Marie Castille.
C'était un coup de cœur, Jonas?
Un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur humain. Voilà. Et je lui ai dit, tu rentres dans ma famille de cinéma.
Merci à tous les deux d'être venus. Good Men, c'est donc mercredi dans les salles. Et voici tout de suite, pour se quitter, la bande-annonce.
Est-ce que vous pourriez me dire comment est né ce désir d'enfant?
Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai hyper envie d'être maman.
Je sais pas, c'était évident. Tout de suite, j'ai ressenti le désir d'avoir des enfants avec Aude.
Et que représente pour vous le fait d'avoir des enfants?
Tellement de choses.
On veut avoir une famille. Aude ne peut pas. Alors c'est moi qui vais porter notre...
On écoute la télé spécial festival.
Nous partons demain justement pour le festival de Sarlat et on va terminer cette émission pour parler de cette édition du festival de Sarlat après avoir été avorté l'année dernière une dizaine de jours avant le début par le confinement cette année. Enfin, voilà, l'édition va se tenir et je sais que pour toute l'équipe du festival, c'est un grand soulagement de pouvoir enfin donner rendez-vous aux festivaliers du côté de Sarlat jusqu'à dimanche avec Christelle Oscar qui est justement la programmatrice du festival et déléguée générale. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je crois qu'on peut pousser un ouf. Enfin, demain le festival s'ouvre à Sarlat.
Ah oui, enfin, depuis tout ce temps en rétention, on est enfin prêt à livrer une édition que je pense être de haute tenue et de belle qualité.
Alors surtout que c'est un anniversaire un peu particulier quand même en plus cette édition.
C'est le 30e anniversaire exactement. Le festival touche ses 30 bougies cette année, ce qui fait que nous avons aussi prévu quelques animations hors les murs pour égayer la ville.
Alors justement, Christelle, pour tous ceux qui connaissent pas forcément le Festival de Sarlat, c'est quoi le Festival de Sarlat en quelques mots? Ce sont des rencontres avec le public, des projections, une compétition. Racontez-nous un petit peu.
Alors le Festival de Sarlat, le Festival du film de Sarlat, au départ, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est un festival qui a été créé pour la jeunesse, plus précisément pour des lycéens qui sont en terminale option cinéma, donc des graines de cinéphiles en quelque sorte. Et au fil des années, tout un programme leur est dédié autour du travail, autour du film du bac, du nouveau film du bac au programme, avec des conférences, etc. Donc cette année, le film du bac, c'est Le secret derrière la porte de Fritz Lang. De là découle une petite rétrospective, des conférences. Pour les lycéens, on envisage aussi, comme chaque année, le tournage de petites séquences, donc ils sont mis en condition réelle pour tourner des films qu'ils ont déjà écrits, des petites 2-3 minutes, entourés de professionnels, de comédiens, de réalisateurs, de monteurs qui les aident à aboutir de ce qu'on appelle donc aujourd'hui ces petites séquences. Il y a également des ateliers avec des professionnels qui viennent leur parler de leur métier, donc le scénario, le son, l'image, la critique. Il y a vraiment un programme très très riche pour eux. Et à ceci, à cette colonne vertébrale, se rajoute le festival peut-être un peu plus tapis rouge, qui se déroule au cinéma Le Rex et qui propose une sélection officielle de 9 films. Ces 9 films sont tous accompagnés de leurs équipes. Donc c'est un des axes principaux aussi du festival, ça tourne autour de la rencontre. Donc ces équipes viennent voir le public et ces équipes viennent à la rencontre des lycéens. Donc ça se passe sur 2 salles, le cinéma Rex et le centre culturel. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, des sections se sont rajoutées. Aujourd'hui, on a donc cette sélection officielle dont je vous parlais avec 9 films. On a une sélection Tour du Monde, qui sont des films étrangers, qui ont beaucoup de succès auprès du public plus cinéphile. Et j'ai rajouté cette année une catégorie que j'appelle Jeunes Regards, qui consiste en une sélection de films, pas forcément des premiers films, souvent des premiers films, des films français, fiction ou documentaire, qui offrent un regard un peu en prise avec le contemporain, avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans la façon de filmer, de raconter des histoires ou tout simplement dans les sujets traités. Je trouve que c'est quelque chose qui fait bien le lien avec une autre sélection qui est là depuis longtemps, c'est la sélection des courts-métrages. Donc je trouvais que c'était bien d'avoir, entre la sélection officielle qui présente des films installés dans le paysage d'auteurs déjà un petit peu plus reconnus, il y a aussi cette idée de transition et qu'on voit aussi ce qu'on peut faire quand on est un premier ou un deuxième film et ce qu'on peut aussi de temps en temps crier à la face du monde quand on est un jeune auteur. Voilà, et puisque c'est les 30 ans et qu'on n'est pas avare en séance, on s'est dit aussi qu'on allait proposer 3 belles avant-premières qui sortent de la sélection officielle, qui sont des séances spéciales, qui passeront le samedi et puis sur le 11 novembre également.
Il y aura une cérémonie de remise de prix le samedi soir aussi?
Oui, il y a la cérémonie de clôture qui va consacrer en effet le film. Alors le festival du film de Sarlat délivre un prix du public. C'est un festival de public, donc la Salamandre d'Or récompense un prix du public. Et il y a également 2 prix délivrés par les lycéens. Alors il y a le prix des lycéens et il y a un petit jury professionnel qui s'est composé. On l'appelle le prix du jury jeune. Et ce jury jeune donne les prix d'interprétation.
Donc il y a un beau programme, en tout cas il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de l'action, il va y avoir du sujet de société avec par exemple La Vraie Famille, il va y avoir du rire avec le film Le Test par exemple d'Emmanuel Poulain-Arnaud qui sera présent d'ailleurs au Festival de Sarlat. Il y aura Fabien Gorgeard, Mélanie Thierry, il y aura Liès Salem, et il y aura aussi Sarah Giroudot, enfin il va y avoir du beau monde à Sarlat qui va défiler tout au long de cette semaine.
Oui, c'est ça. Ça va être une émulsion permanente. Les équipes vont se croiser. Le public aura beaucoup de choix et puis il pourra en effet échanger avec ses auteurs. Il y a également Audrey Diwan et Anna-Maria Bartholomei qui viennent pour l'événement. Donc c'est quand même le film qui a eu le Lion d'Or à Venise. Il y a Laurent Cantet qui sera là avec Rabah Naïtoufella. Laurent Cantet qui avait eu la Palme d'Or en 2008. Il y a des tas de personnes au profil très différent, mais c'est voilà, la qualité et la richesse des échanges seront au rendez-vous.
Concrètement, Christelle, comment réserver des places? Comment assister au festival? Combien ça coûte? Racontez-nous, est-ce que les séances sont payantes? Comment les réserver? Quel prix? Est-ce qu'il y a un pass?
Il y a plusieurs formules. C'est un petit peu à la carte, tout dépend. Si on veut voir un film de temps en temps, alors je vous dis ça un petit peu de tête, mais la tranche de prix, c'est entre 8,50 € et 6 € selon si c'est une soirée d'ouverture et de clôture ou bien si c'est une autre section. Le plus intéressant, je pense, c'est toujours de prendre une carte. Enfin, si on décide d'être un petit peu plus assidu, il y a des cartes.
Oui, d'être là sur plusieurs jours et de voir plusieurs films.
Qui sont, voilà, pour pouvoir voir à la carte. Et là, je crois que c'est une 50 ou 55 € la carte, quoi. La billetterie, évidemment, est ouverte et on peut déjà réserver soit via le site du Rex, soit par le site du festival qui renvoie vers la billetterie du Rex. En tout cas, tout est possible à faire en ligne de chez soi et sur place au Rex.
Et rendez-vous pour avoir le programme, si vous voulez, complet, hein, justement, du festival sur le site du festival du film de Sarlat.fr. Voilà, vous pourrez aller voir, évidemment, tout ce qui vous attend.
Sociaux.
Exactement, et puis la page du Facebook aussi officielle du Festival du film de Sarlat. Nous, on prend la route demain matin, Christelle, et on vous rejoint là-bas dans votre beau Périgord noir. Merci beaucoup en tout cas.
Avec plaisir.
Et puis on vous dit à demain.
Je vous remercie. À demain, oui.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous avons le grand bonheur de recevoir les Baudins à l'occasion de la sortie du film Les Baudins en Thaïlande. Un événement à ne pas manquer. Pascal Elbé également sera notre invité exceptionnel pour nous parler de la sortie de son très beau film On est fait pour s'entendre. Nadia Rose et Bouder seront avec nous pour le Furet. Elias Loufoque sera avec nous également pour le téléfilm L'Enfant de Personne. Vous l'avez compris, ça s'annonce encore chargé. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute, on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.